Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
On est un samedi après-midi à Paris. Il fait bon, le ciel étale sa couleur sur toute la ville, le vent lacère ses boulevards et ses eaux brillent soudain quand le soleil flirte avec les fontaines du Luxembourg. Les foules s'amassent et se dispersent devant les carrés de fleurs comme les bancs de poissons sillonnent la mer. Un marchand tend une glace à un gamin sous l'œil attentif des pigeons et des canards. Les palmiers se prélassent dans les allées de sable et le souffle de la vie envoie ses émissaires chatouiller la cime des arbres. Et puis il y a ce sentiment qui me traverse, ce quelque chose de grand et d'insondable devant ce tableau qui vous envahit et vous dépasse complètement. Et là...
Mais voilà, mais c'était sûr.
En me remettant de mes émotions, je me suis questionné. Je me suis demandé pourquoi j'avais ressenti ce sentiment de grâce dans un parc et pas devant un bâtiment ou un monument. Pourquoi peut-on avoir cette fascination pour la nature en même temps que celle que l'on a pour sa destruction? Et j'en suis arrivé à observer que tout ceci disait bien quelque chose de nous, mais du nous avec un grand N, car ce quelque chose ne vient pas de nulle part, et j'ai soupçonné qu'il ait traversé les âges, voire les continents, pour se loger jusque dans la culture qui nous compose et définit notre rapport à la nature et à notre environnement. Dans ce cinquième épisode des Antiquités Orientales, nous irons cueillir l'une des innombrables fleurs de l'humanité, celle des Assyriens. Fanée depuis 2500 ans, nous la ferons à nouveau éclore pour arpenter ses paysages, faits tantôt de jardins foisonnants qui arborent les palais, tantôt de natures hostiles et redoutables, dernier recoin où, paraît-il, la civilisation n'a pas encore posé le pied. Prenez vos affaires, car nous partons à la rencontre des Assyriens. Alors, il vous faut un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre qui sont les Assyriens. Il y a quelque temps de cela, dans l'épisode que je consacrais à la culture des Sumériens, j'ai commencé à vous raconter une histoire, celle de la civilisation mésopotamienne. Je vous disais que les Sumériens avaient posé les bases de cette même civilisation mésopotamienne qui s'étendit sur les territoires de l'Irak et d'une partie de la Syrie actuelle, entre 3000 avant Jésus-Christ et 539 avant Jésus-Christ toujours. Je vous disais aussi que les Sumériens furent au cours de leur histoire rejoints par une autre population, à la culture très différente, celle des Akkadiens. Et c'est la fusion de ces deux cultures qui a donné ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation mésopotamienne. Alors, pour mieux comprendre ce qui va suivre, mettez votre tablier parce que je vais vous apprendre la recette de la civilisation mésopotamienne. Vers 3000 avant Jésus-Christ, prenez 500 g de farine de sumérien et versez-la dans un bol. Laissez-les inventer l'écriture cunéiforme, l'irrigation, les mathématiques, construire des temples, des palais, raconter leurs mythes, bref, laissez-les prospérer. Ajoutez plus tard 3 œufs d'Acadiens avec un peu de levure d'influences culturelles diverses dont on n'a pas le temps de parler parce que l'épisode doit faire 30 minutes, et battez le tout pendant encore quelques siècles jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Vers 1830 avant Jésus-Christ environ, prenez 2 bols et versez la moitié de la pâte dans le bol des Babyloniens et l'autre moitié dans celui des Assyriens. Saupoudrez les deux préparations de sucre de guerre, d'épices d'influence aux origines diverses dont on n'a de nouveau pas le temps de parler, puis enfournez le tout à 200 degrés pendant 1500 ans. Et voilà, vos Babyloniens et vos Assyriens sont prêts. Vous aurez donc compris que les royaumes assyriens et babyloniens ont des cultures très proches, si bien qu'ils parlent deux dialectes de la même langue, l'akkadien, qu'ils écrivent avec la même écriture, l'écriture cunéiforme inventée plutôt par les Sumériens, qu'ils vénèrent les mêmes dieux, le tout avec à chaque fois leur propre spécificité. Quand le roi du panthéon babylonien est Marduk, celui des Assyriens n'est autre qu'Assur, le dieu de l'orage, qui donna aussi son nom au peuple assyrien ainsi qu'à leur capitale, qui s'appelle donc Assur. Et pourtant, malgré toutes leurs ressemblances culturelles, les royaumes assyriens et babyloniens furent en concurrence pendant près de 1500 ans, se livrant à des guerres et à des conflits diplomatiques diverses. Comme quoi, qui se ressemble, se tape dessus. Pour en revenir à nos Assyriens, ils occupèrent la partie nord de l'Irak et de la Syrie actuelle, et au maximum de leur expansion, ils ont réussi à contrôler quasiment tout le Proche-Orient, de la Turquie au nord, à la Babylonie au sud, et d'une partie de l'Iran à l'est, à Chypre, et même la Grande Égypte à l'ouest. Contrairement aux rois babyloniens qui ont presque toujours fixé leur capitale à Babylone, les rois assyriens déménagèrent leur capitale trois fois, dans des villes où ils construisirent des comptoirs commerciaux, des forteresses, des jardins et des palais. Plongeons maintenant au cœur de leur paysage, tout droit dans les terres de l'Assyrie.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Comme je l'ai dit plus tôt, les Assyriens occupèrent principalement le nord de l'Irak. Le paysage que l'on y trouve là-bas est quelque peu différent de celui que l'on peut admirer au sud et dont je vous ai fait plusieurs fois la description dans les épisodes sur Sumer et Babylone. À l'inverse d'un pays plat, au désert sillonné par d'innombrables bras des fleuves Tigre et Euphrate et dont les eaux inondent parfois la plaine, le paysage dans lequel a émergé l'Assyrie est celui d'une région plus hostile. Bercé par le Tigre et ses affluents, Assur est entouré de contrées vallonnées et arides. À l'est, trônent les gigantesques montagnes du Zagros, qui forment une barrière importante entre les Assyriens et les royaumes qui peuplèrent jadis l'Iran. À l'ouest, en revanche, le terrain est beaucoup plus plat. Même si quelques centaines de kilomètres séparent la première capitale des Assyriens d'une chaîne montagneuse qui chevauche aujourd'hui la Syrie et le Liban. Nous ne pouvons pas vraiment savoir exactement comment était le climat de la région à l'époque des Assyriens, mais il est probable qu'il a ressemblé à celui que l'on trouve aujourd'hui à cet endroit. C'est-à-dire un climat très sec, irrégulier, où l'année est séparée entre une longue saison chaude et sèche, avec des températures pouvant avoisiner les 50 degrés, puis une saison plus douce, le reste de l'année, avec, si les dieux sont cléments, de la pluie. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que la végétation se faisait plutôt rare et se réduisait souvent à de petits arbustes recouvrant la steppe. Mais pour que la civilisation se développe à cet endroit, il fallait compenser cette aridité extrême, et le fleuve du Tigre qui bordait Assur était le parfait candidat pour cela. En temps normal, son débit se situe aux alentours de 1236 mètres cubes par seconde, ce qui fait déjà deux fois et demi celui de la Seine, mais pendant les crues, il peut atteindre les 15 000 mètres cubes par seconde, soit 12 fois son débit moyen et 25 fois celui de la Seine. Autant vous le dire tout de suite que les vacances au bord du Tigre, on va s'abstenir. Mais le Tigre n'est pas seulement un pourvoyeur d'eau. C'est lui qui fertilise les terres avec ses crues pendant la saison des pluies, et c'est aussi lui qui fournit aux Assyriens l'une des ressources naturelles les plus importantes pour leur civilisation. Présente en quantité quasi illimitée, l'argile, par sa nature malléable et abondante, n'est ni plus ni moins qu'une pâte à modeler grandeur nature, avec laquelle les Assyriens font tout. Les maisons, les temples, les tablettes sur lesquelles ils écrivent, les lampes, les jarres, tout, tout, tout. Comme si ce n'était pas déjà un matériau exceptionnel, l'argile, lorsqu'elle est cuite à la bonne température, devient aussi dure que de la pierre, ce qui est quand même très efficace quand on veut construire des grands bâtiments ou figer le contenu d'une tablette que l'on vient d'écrire pour les millénaires à venir. C'est donc dans ce paysage précis qu'émergèrent les Assyriens. Et j'irai même plus loin en vous disant que cet environnement dans lequel ils ont évolué a largement contribué au façonnement de leur culture et de leur civilisation. Voyez-vous, l'humain est un animal comme les autres. Cet animal a besoin de se nourrir, de boire, d'avoir chaud, de se reproduire, enfin bref, de vivre. Et c'est à cause de ces besoins vitaux que l'humain est d'office engagé dans un rapport de force avec la nature. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nature ne l'attend pas, son rythme n'est pas calé sur ses besoins, et donc l'humain doit s'adapter à elle en permanence, et on peut même aller jusqu'à dire que dans bien des cas, il l'a subi. Plus particulièrement, l'Assyrien, lui, subit ces six longs mois de saison chaude, où le soleil lui laboure la peau de ses rayons enflammés, faisant drastiquement baisser le niveau du Tigre et rendant impossible la culture de ces terres si fertiles à l'accoutumée. Six longs mois, avec autour de lui seuls quelques arbustes et animaux pour espérer grignoter, ainsi que le désert, silencieux et lointain, qui s'étend à perte de vue entre les montagnes et les collines. Alors, Lorsqu'un jour, l'habitant des rives du Tigre sort de sa maison et que le ciel échange son visage brillant contre une mine grise, devenant aussitôt cette nuée noire à la couleur instable et dangereuse dont le ciel se pare lorsqu'il se met en colère, lui on n'imagine pas la joie fulgurante qui s'empare de l'Assyrien. Mais cette joie ne peut s'exprimer longtemps. Maintenant que l'orage se met à gronder, il faut tout mettre à l'abri et se protéger de la crue dévastatrice du Tigre qui, sorti de son lit, viendra déchiqueter tout ce qu'il trouvera sur son chemin. Ce n'est que lorsque l'accalmie est en son champ sur la ville d'Assur que la plaine du Tigre révèle son vrai visage. Un véritable lit de marécage dont l'eau fertilisante fera bientôt émerger la vie de la destruction sur les terres d'Assur pour les quelques mois à venir. Le rapport de force entre l'Assyrien et la nature est donc d'office déséquilibré. Et de ce fait, cela n'est pas sans conséquence sur la manière dont l'Assyrien se situe dans le monde, sur la façon dont il le hiérarchise. Pour nous, Européens du XXIe siècle, probablement empreints d'une culture citadine, les orages n'ont pas la même importance que chez les Assyriens. Là où ils ne sont pour nous tout au plus qu'un simple phénomène météorologique, certes peut-être dangereux mais dans une mesure tout à fait relative grâce à nos paratonnerres, nos maisons en béton armé et notre climat tempéré qui permet un apport régulier en eau à notre agriculture, les orages sont pour les Assyriens une véritable épreuve de laquelle dépendait leur survie. Et c'est pour cette raison que pendant les quelques 1500 ans d'histoire de la civilisation assyrienne, le dieu de l'orage Assur fut presque à toutes les périodes le chef suprême de leur panthéon, le nom de leur pays et de leur peuple. Cette importance accordée à l'orage n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont le paysage dans lequel a évolué cette culture l'a influencé jusque dans ses croyances religieuses. Mais la divinisation de phénomènes naturels ne reflète pas uniquement cette fascination des Assyriens pour la puissance créatrice et destructrice de la nature. Elle constitue le point de bascule du rapport de force qui se joue entre lui et le monde. Je m'explique. Quand un Assyrien vénère Assur, par exemple, il ne le fait pas uniquement parce que c'est un dieu et qu'il est joli, il le fait parce qu'Assur contrôle littéralement l'élément qui maintient en vie le pays assyrien tout entier. Et si vous avez bien suivi jusqu'ici, je parle de l'orage. Or, la relation entre l'humain et le divin au Proche-Orient ancien, c'est un simple équilibre de donnant-donnant entre un maître et son serviteur. Je vous la fais courte, moi, humain qui suis à ton service, regarde le beau plat que je t'ai préparé, cette viande de bœuf, savoureuse, délicate. C'est bon, hein, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, en échange, tu vas m'offrir des pluies qui vont fertiliser mes terres, hein, et comme ça, je vais pouvoir te donner encore plus de bonnes pitances et de poissons délicieux à manger et à boire, puis je vais te réciter encore plus de prières pour te dire à quel point tu es le meilleur, et enfin, accessoirement, tu ne te mettras pas trop en colère contre moi, et je vais pouvoir continuer ma vie tranquille. Vous voyez où je veux en venir ? En fait, pour un Assyrien, vénérer une divinité qui contrôle la nature revient à rééquilibrer le rapport de force entre elle et lui, voire même à l'inverser. Au lieu de subir le monde, il peut, à travers son culte, exercer une influence sur sa propre condition. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, quand l'homme veut dominer la nature. Alors évidemment, il faut préciser que ce processus-là n'est pas vraiment conscient. Un Assyrien ne va jamais vénérer une divinité en se disant qu'il va avoir le contrôle sur son avenir et sa survie. C'est un élément implicite de la mentalité assyrienne. Par contre, ils ont tout à fait conscience et ont la volonté de maintenir une relation d'équilibre entre leur maître, les dieux, et eux, les humains, sur le même modèle que celui que je vous ai explicité précédemment. Mais donc cette volonté de dominer la nature s'exprime de plusieurs manières dans la culture assyrienne. Et pour le comprendre, il va falloir que nous allions visiter Ninive, la plus grande capitale que les Assyriens ont construite, mais aussi la dernière à les avoir accueillis avant leur chute. Vous y entrerez sous les traits d'un diplomate expérimenté originaire de Babylone, à une époque où la ville est soumise aux Assyriens. Les lourdes portes de la forteresse qui encercle la capitale assyrienne s'ouvrent alors sur une route parsemée de petites habitations à toit plat, en terre crue, dont certaines bordent le Tigre. Au loin se dresse derrière une autre muraille la ville haute de Ninive, centre névralgique du pouvoir assyrien, seulement composé de quelques temples, d'archives, d'entrepôts et bien sûr du palais du roi Assurbanipal. Pendant que les regards interloqués des passants glissent sur votre visage et votre tenue d'étranger, vous êtes escorté par la garde jusqu'à votre destination. L'invitation que vous a faite le souverain de séjourner dans sa capitale n'est pas anodine. Et votre expérience diplomatique vous fait savoir que tout ici sera conduit pour vous impressionner. Votre œil est vite attiré par les deux immenses lamassus qui encadrent la porte de la ville haute. Ces taureaux ailés à tête humaine de plusieurs mètres de haut sont des divinités protectrices qui gardent toujours les entrées des temples, des villes ou des palais dans toute la Mésopotamie. Mieux vaut ne pas croiser leurs regards. À l'intérieur, le diplomate chargé de vous guider vous indique que vous passerez dans ce qu'il aime appeler la bibliothèque d'Assurbanipal. Disséminée entre les différents palais du souverain et le temple de Nabu, le dieu des scribes et de l'écriture, cette bibliothèque concentrait du savoir sur tout ce qu'Assurbanipal, qui connaissait et aimait l'art du scribe, désirait connaître, en plus de contenir ses archives personnelles. Ces rayonnages accueillaient plus de 30 000 œuvres, couvrant la médecine, l'astrologie dont Assurbanipal était friand, des traités sur toutes les techniques de divination pour s'assurer d'avoir toujours un coup d'avance sur l'avenir, mais aussi des prières, des rituels et des exorcismes venus de toute la Mésopotamie, utilisés pour apaiser les dieux en toutes circonstances, et aussi des récits mythologiques. Et lorsque l'on vous fit descendre dans l'une des parties de la bibliothèque, on vous laissa devant un présentoir les 12 tablettes qui composent un récit que toute personne lettrée du monde connaissait alors, l'épopée de Gilgamesh. Ah, en voilà une histoire qui berça votre enfance. Dans des temps très anciens, Gilgamesh trônait alors comme le grand roi d'Uruk. Sa puissance était telle qu'elle avait fait gonfler en lui un orgueil digne de déranger même les dieux. Pour le rappeler à sa condition de mortel, le roi des dieux ordonna que l'on fasse une créature aussi puissante que lui pour qu'elle le soumette. Aruru, la déesse qui avait déjà fait les hommes par le passé, se lava alors les mains, prit un bloc d'argile et c'est là, dans la steppe, qu'elle façonna Enkidu de ses mains. Son corps était aussi puissant que celui d'un bœuf. Il ne connaissait ni concitoyens ni pays, car il vivait accoutré à la sauvage dans le pays des gazelles, comme disait le texte. Il broutait. En compagnie de sa horde, il se régalait d'eau. Gilgamesh, ayant eu vent de sa puissance par un rêve, voulut tout de suite se mesurer à lui. Mais il était trop sauvage pour rentrer dans Uruk. Alors, Gilgamesh envoya à lui une courtisane pour qu'il découvre avec elle le plaisir. De cette façon, Enkidu serait rejeté par son troupeau et il pourrait devenir un humain. Le stratagème marcha et, après 7 jours et 7 nuits d'amour, Enkidu entra à Uruk, décidé à combattre le roi Gilgamesh. Les deux hommes se combattirent avec violence, mais aucun d'eux ne triompha, ils étaient bien de force égale. Émus d'avoir trouvé tous deux leur alter ego, Gilgamesh et Enkidu tombèrent l'un dans les bras de l'autre. Ils avaient noué une relation indéfectible. Aussitôt, Gilgamesh proposa à Enkidu de partir à l'aventure avec lui. Il existait, très loin d'Uruk, une forêt de cèdres gardée par le terrible Humbaba. Ce gardien de la forêt sacrée était d'une puissance incomparable et avait été placé là par les dieux pour garder son bois du désir des hommes. Mais Gilgamesh voulait à tout prix le tuer pour s'approprier le cèdre de la forêt. Alors, malgré les réticences d'Enkidu et les avertissements de toute la ville d'Uruk, les deux héros partirent pour la forêt, tuèrent son gardien, la profanèrent en coupant son cèdre et revinrent à Uruk, triomphants. Mais la joie allait être de courte durée. Pour punir Gilgamesh du sacrilège qu'il venait de commettre avec Enkidu, les dieux décidèrent de jeter la maladie sur son ami. Celui-ci mourut dans d'atroces souffrances, et Gilgamesh, qui avait été à son chevet jour et nuit, en implorant les dieux de le sauver, se promit que lui n'allait jamais mourir. Alors, il se lança dans une quête pour trouver l'immortalité, un voyage aux longues péripéties qui le mena jusqu'au bout du monde, à la frontière entre la vie et la mort, trouver la fleur d'immortalité. Et c'est là, dans ce trou d'eau dans lequel il se baigna alors qu'il la détenait, qu'un serpent lui vola la fleur et coula avec tout au fond de l'eau, comme le firent les larmes de Gilgamesh après lui. C'est sur ce souvenir du récit de l'homme qui ne voulait pas mourir que s'achève votre visite de la bibliothèque d'Assurbanipal. Et votre homologue assyrien vous annonce que vous allez être reçu au palais. Alors, on vous y conduit, et sur le chemin, on ne manque pas de passer par ce qui ressemblait de loin à une forêt, mais qui se trouve véritablement être les jardins du roi. Les canaux d'irrigation, merveille d'ingénierie que les Assyriens maîtrisent à la perfection pour dévier les eaux des fleuves, dessinent les contours du jardin pour se rejoindre en un seul bassin central. Votre guide vous explique que l'eau vient d'une montagne située à une distance qui fait environ 50 km d'ici, et qu'il a fallu l'équivalent de 2 millions de pierres pour réaliser l'aqueduc qui achemine l'eau. À mesure que vous approchez, vous êtes de suite assailli par cette forte odeur que dégagent les innombrables rangées de pins et de palmiers qui peuplent le jardin. Vous remarquez aussi le feuillage des fruitiers chatouillé par les ailes des oiseaux dont le bec vient de voler l'un des fruits. Grenades, poires, figues, prunes ou encore olives semblent perler le bois des arbres, de la cime à la racine. L'une des inscriptions du roi qui siège incrustée sur la roche d'un mur dit notamment ceci. « J'ai planté, à côté du palais, un jardin botanique qui contient toutes sortes d'arbres et tous les fruits et légumes. Et c'est en regardant autour de vous qu'à ce sentiment d'abondance irréelle s'ajoutait ensuite l'étonnement de voir les espèces d'arbres, de fruits, de légumes et même de plantes aromatiques totalement inconnues à votre œil aguerri de diplomate, qui a pourtant parcouru les cours les plus prestigieuses de tout le Proche-Orient. Vous êtes tellement enchanté par ce paysage idyllique que vous n'avez même pas ressenti ce quelque chose de doux qui vous effleura la hanche. Encore hébété par la splendeur du jardin, vous vous retournez niaisement pour tomber nez à nez avec un lion. Votre guide posa immédiatement une main rassurante sur votre épaule, qui tremblait, pour vous indiquer que ce lion a été spécialement habitué à la présence de l'homme depuis sa plus tendre enfance, et que ce n'est pas le dernier animal que vous croiserez ici, que ce soit des cerfs, des gazelles, des lions de l'Atlas, ou bien même des panthères. Et ce n'est que quelques félins plus tard, lorsque la visite fut terminée, que le diplomate qui vous servait alors de guide vous arrêta devant l'entrée du palais, en vous faisant signe de le suivre à l'intérieur, sous le visage placide des gardes postés par rangées dans le couloir d'entrée. Ce couloir s'ouvre brusquement sur votre destination, une grande salle rectangulaire, toute en pierre qui s'élance droit devant vous, avec ses reliefs aux couleurs de turquoise, d'ocre rouge et jaune, de blanc, de noir, toutes entrecoupées d'inscriptions en écriture cunéiforme. Au cœur de ces couleurs prennent vie des images au ton paisible. Quand les lions sont endormis sous les palmeraies, le roi est représenté couché dans ses jardins, auréolé de vignes, se délectant des raisins qui semblent tomber d'eux-mêmes dans sa main. Tout autour de lui, ses serviteurs s'affairent à son bien-être, que ce soit pour l'éventer ou lui jouer de la musique. Mais alors que votre regard se baladait sur cette imagerie pour le moins idyllique, il en tomba sur une partie qui dénote une toute autre ambiance. Au registre supérieur, une scène montre un cortège marchant dans la montagne. Mais ce qui vous interpelle, c'est surtout la vue d'un homme, debout sur un char, les avant-bras et les habits fermement empoignés par des soldats assyriens. Ce qui vous interpelle chez cet homme, c'est que vous l'avez reconnu. Il s'agit d'un ancien roi du nom d'Umanaldash, précédent détenteur du royaume des Lames, qui se situe par-delà les montagnes de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et alors, toute l'histoire vous revint en mémoire. Cette histoire commençait plutôt bien pour lui. Alors qu'il n'était pas encore roi, le pays des Lames était dirigé par un certain Urtak, un homme originaire de sa propre famille et dont il était l'héritier. Urtak avait conclu une paix avec la Syrie, une paix censée être durable. Seulement, emporté par son orgueil, Urtak décida un jour de briser le serment qu'il avait fait à la Syrie devant les dieux et se mit à envahir le pays assyrien petit à petit. Courroucé par cet affront, le roi assyrien Assurbanipal, qui venait alors de monter sur le trône, partit en guerre contre le roi des Lames et eut raison de lui sur le champ de bataille. Cette guerre et la mort d'Urtak fut une terrible nouvelle pour Umanaldash, puisqu'à la suite de cet événement, c'est un homme du nom de Teoman, originaire d'une famille rivale à la sienne, qui usurpa le pouvoir. Umanaldash dut alors fuir son pays d'origine, par peur d'être assassiné. Il trouva refuge chez le roi de Babylone, frère et vassal du roi d'Assyrie. Et c'est là que vous l'avez connu. Dans le même temps, Assurbanipal, mécontent de cette arrivée imprévue sur le trône d'un homme qu'il ne cautionnait pas, partit en guerre contre lui. Et comme on ne pouvait arrêter l'armée assyrienne en ces temps-là, Teoman ainsi que ses hommes perdirent la vie, noyés dans une rivière qui jouxtait le champ de bataille. Théoman avait subi un sort spécial, puisqu'il avait été décapité et sa tête fut ramenée en Assyrie. Uman Aldash pouvait alors enfin monter sur le trône de sa famille. Mais alors même que l'histoire devait s'être résolue d'elle-même, c'est bien la tragique nature des hommes qui en écrivit la fin, lorsque le propre frère d'Assurbanipal décida de le trahir. Il n'eut pour ce faire aucun mal à persuader Uman Aldash de le rejoindre dans sa révolte, puisqu'il lui avait donné un toit lorsque sa vie était menacée. Cette coalition fut défaite par Assurbanipal. Le roi de Babylone fut assassiné par son propre frère pour trahison, et c'est la représentation du sort d'Uman Aldash, fait prisonnier sur un char assyrien, que vous étiez en train de regarder tout à l'heure. Dans le registre inférieur de cette même scène, on observe une panthère, qui babine retroussée dans l'obscurité d'un buisson, s'apprête à bondir sur une chèvre sauvage. Mais alors que vous terminiez de vous remémorer cette triste histoire, toute l'imagerie déployée par les reliefs prit un sens beaucoup plus précis. Tout comme la panthère est prête à bondir sur la chèvre sans défense, le roi Assurbanipal est prêt à bondir sur n'importe lequel de ses ennemis. L'ennemi qui était Théoman, par exemple, figure dans le coin de la fresque où le roi était représenté couché en mangeant du raisin. Tout en haut d'un pin du jardin royal, la tête de Théoman pendait piteusement, alors que des oiseaux se mettent en chasse d'un criquet juste au-dessus de lui. Les Élamites avaient envahi les terres assyriennes, tels des criquets viennent envahir les champs. Alors, le roi Assurbanipal les avait pris en chasse, les avait battus et fait noyer dans le fleuve, exactement comme les Assyriens chassent les criquets de leurs champs, en les projetant dans la rivière pour les noyer. De la même manière, lorsque les lions des reliefs sont transpercés de flèches ou de lances, ils ne sont que la métaphore de ce qui arrive aux ennemis du roi. Et c'est alors que votre visite dans ce même endroit prit une autre dimension pour le diplomate d'un pays vassal que vous êtes. Car le message est on ne peut plus clair. Contemple mes jardins, contemple mes palais, regarde ce que je fais à ceux qui me trahissent. Prends en note et informe-en ton roi.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
De retour dans le présent, ce voyage ne fut pas qu'une simple immersion dans la capitale assyrienne, vous vous en doutez bien. Dans chacun de ces lieux que nous avons visités, c'est le rapport qu'entretiennent les Assyriens avec la nature qui est mis en scène. Dans leurs jardins, que ce soit en faisant jaillir de l'eau dans des endroits qui en sont dépourvus, en réunissant des espèces animales et végétales originaires de tout le monde connues au même endroit, en pacifiant le lion si dangereusement réputé ou en couvrant les arbres de fruits, la nature agit comme un trophée brandi par les rois pour montrer leur pouvoir. Plus loin encore, cette domination va-t-elle au sein des palais, où la représentation de la nature se mêle à celle des hommes dans des fresques qui se répondent. Le lion, couché dans les jardins du roi, n'est rien d'autre que la métaphore du vassal docile. La chasse du criquet par les oiseaux ou celle de la chèvre par la panthère répond simplement aux longues fresques qui représentent les campagnes militaires du roi assyrien en Élam et même ailleurs. Dans toute cette imagerie, la nature n'est que le support d'une idéologie du pouvoir, celle d'un roi tout-puissant qui soumet et détruit ses ennemis sur le modèle naturel du chasseur et de la proie. Enfin, l'épopée de Gilgamesh représente une nature bien différente de celle des jardins et des palais. Avec le personnage d'Enkidu, où il est représenté comme une bête dans un corps d'homme, la nature représente le caractère dur et rustre du monde sauvage tel qu'il était conçu par les Assyriens. Elle est cette fameuse steppe hostile qui exerce son rythme implacable sur l'homme et les animaux. Ce rapport semble s'inverser dans l'épisode de la forêt de cèdres, où l'orgueil des hommes va jusqu'à la dominer, en tuant symboliquement son gardien divin et en pillant ses ressources qui ont auparavant été consacrées aux dieux. Mais toutes ces tentatives de renverser symboliquement le rapport de force qui se joue entre l'humain et la nature se colorent d'une ironie bien noire lorsque l'on se penche sur les faits. Quelques années plus tard seulement, après le règne d'Assurbanipal, Ninive, sa bibliothèque, ses jardins, ses palais et son empire tout entier furent détruits par, entre autres, une succession de luttes dynastiques et un changement climatique sans précédent qui avait provoqué famine et épidémie. Ainsi, les mêmes Assyriens qui se représentaient quelque temps plus tôt comme les glorieux détenteurs de l'ordre du monde se sont vus réduire en poussière en un claquement de doigts dès lors que ce même monde a accéléré sa marche. C'est ainsi que s'achève ce 5e épisode des Antiquités orientales sur la civilisation assyrienne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. N'hésitez pas aussi à suivre cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook en tapant les Antiquités orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en assyrien, Chalmou.